Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Une opération de l'armée israélienne fait 2 morts et 30 blessés en Cisjordanie occupée. La France salue le cessez-le-feu à Gaza et déplore les victimes civiles. L'association France-Palestine Solidarité exprime pour sa part son indignation après les bombardements du week-end dernier et réclame des sanctions contre Israël. Nous écouterons Bertrand Helbron, président de l'AFPS. Un responsable du Fatah assassiné dans le camp palestinien de Ain Helweh au Liban Sud. Au Mali, ce sont 17 militaires et 4 civils qui ont été tués lors d'une attaque djihadiste. 9 autres soldats sont portés disparus. Enfin, le MRAP, présent ce mardi à Paris-Plage pour sensibiliser le public à la lutte contre le racisme. Nous écouterons Kaltoum Gachi, avocate et coprésidente du MRAP. Deux Palestiniens, dont un commandant d'une faction armée, ont été tués ce mardi dans une opération des forces israéliennes à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Selon le Croissant Rouge palestinien, au moins 30 Palestiniens ont été blessés lors de cette opération. La France salue le cessez-le-feu entre Israël et le djihad islamique dans la bande de Gaza. Une trêve entrée en vigueur après 3 jours de bombardements qui ont fait une 40aine de morts, dont 16 enfants, et plus de 300 blessés. Le ministère français des Affaires étrangères déplore les victimes civiles et exprime ses sincères condoléances à leurs familles. Paris appelle également à une ouverture durable des accès à Gaza pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant. La France estime également qu'il n'y aura pas de stabilité durable à Gaza sans une levée du blocus israélien assortie de garanties de sécurité crédibles pour Israël. L'association France-Palestine Solidarité a, elle, exprimé son indignation après ces nouveaux bombardements israéliens. L'association souligne qu'il n'y avait cette fois aucun prétexte, pas même un tir de roquette en provenance de Gaza, lorsque les raids ont été lancés. Israël a parlé d'attaque préventive après l'arrestation d'un responsable du djihad islamique. Entretien avec Bertrand Helbron, président de l'association France-Palestine Solidarité.
Effectivement, quand on parle de préventive, c'est donc une agression caractérisée, il n'y a pas d'autre mot. Cette agression, elle touche la population de Gaza, et j'allais dire particulièrement ignoble parce qu'on sent derrière des visées électoralistes, Israël est en campagne électorale, et en l'absence de toute sanction, un homme politique qui veut se faire des voix, ben il va aller agresser Gaza. Et tant que les puissances, ce qu'on appelle la communauté internationale, ne réagit pas, ils se sentent en totale impunité. Donc pour nous, ça a aussi un sens, c'est que on a beaucoup d'amis à Gaza. Nous sommes aussi en relation avec des équipes qui travaillent avec des enfants, soit pour dans une visée éducative, soit pour soigner leurs troubles psychologiques. Et on pense particulièrement à eux. Ils sont terrifiés. Les enfants de Gaza souffrent presque tous de stress post-traumatique à des degrés divers. Et les psychologues déploient des trésors d'ingéniosité pour arriver à leur faire surmonter cela. Et puis chaque fois, c'est à recommencer parce que c'est toute la population de Gaza qui vit évidemment dans la terreur. Personne ne sait si la prochaine bombe ne sera pas pour sa maison ou son immeuble. Donc, c'est une situation qui est terrible.
Les points de passage ont rouvert, mais le blocus de Gaza continue, et c'est le cas depuis 2007.
Et donc ça fait 15 ans de blocus. C'est quelque chose de complètement inédit. Quand on maintient une population sous blocus pendant une telle durée, il y a une volonté alors de punition collective, qui est complètement interdite par le droit international, mais pire que ça, finalement, d'anéantir la société palestinienne, ses structures, son économie. Les Palestiniens résistent, notamment, ils font d'énormes efforts pour l'éducation de leurs enfants, mais il ne faut pas sous-estimer leur souffrance. Ces 15 ans de blocus émaillés d'attaques complètement inhumaines comme celle de l'an dernier, où les bombardements étaient incessants, c'est quelque chose de terrible pour toute la population de Gaza. Et vraiment, disons-le nous bien, ce sont des personnes comme vous et moi. Et ces personnes-là, elles souffrent pour elles-mêmes, elles souffrent pour leurs enfants, elles souffrent pour leurs aînés. C'est une situation qui est complètement inhumaine et qui devrait cesser immédiatement. C'est pas possible, 15 ans de blocus, nous menons campagne aussi pour levée immédiate du blocus de Gaza, sans condition. Nous en avons assez qu'on nous oppose la sécurité d'Israël. La sécurité d'Israël, c'est quand Israël apprendra à tenir compte des droits des Palestiniens et vivre en paix avec eux. C'est pas par cette destruction de la société palestinienne et ces attaques incessantes.
Qu'attendez-vous des autorités françaises puisque votre association est implantée en France?
Nous attendons, j'allais dire, le contraire de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Parce que nous avons été indignés, le mot est un peu faible, par le communiqué du Quai d'Orsay qui est paru samedi, où le premier mot, la première phrase, c'est le soutien inconditionnel à la sécurité d'Israël. Il y a quelque chose d'indécent quand Israël attaque une population, quand une population souffre et est sous les bombes, de dire, ah, notre première préoccupation, c'est le soutien inconditionnel à la sécurité d'Israël. Inconditionnel, ça veut dire permis de tuer. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est d'ailleurs pas dans la logique diplomatique française, hein, sauf l'an dernier ou encore en mai 2021, le président Macron a parlé du droit d'Israël à se défendre quand les bombes pleuvaient sur Gaza. Et ça, il y a quelque chose qui, pour nous, n'est pas possible. Nous l'avons communiqué officiellement, nous avons écrit à la ministre des Affaires étrangères. C'est quelque chose que nous considérons comme insupportable. Et donc, ce que nous attendons de la politique française, de la ministre des Affaires étrangères et du président de la République, c'est d'abord une condamnation des bombardements. Bombarder des populations civiles, enfin n'importe où dans le monde, c'est condamné. Enfin, c'est juste incroyable qu'on ne condamne pas, qu'on juste, on déplore les pertes palestiniennes. Mais attendez, elles ne viennent pas d'une catastrophe naturelle, hein, ces morts palestiniennes. Elles viennent des bombardements israéliens sur Gaza, donc ils doivent être condamnés, et bien sûr qu'il faut des sanctions. La France pourrait commencer, elle en a le pouvoir, par rompre, suspendre ou rompre ses relations militaires avec Israël. Et au-delà, c'est bien sûr des sanctions qu'il faut mettre en place. Et ça demande un peu de courage, hein, de la part du Conseil européen des affaires étrangères, où ce sont nos ministres, hein, qui siègent. Donc c'est à eux de dire. Que oui, ça ne peut pas continuer et que maintenant, si Israël viole le droit international, il faut des sanctions.
Récemment, des députés communistes et de la France insoumise ont été très critiqués parce qu'ils avaient évoqué dans une résolution l'apartheid pratiqué par Israël. Qu'avez-vous pensé de cette polémique?
Pour la plupart de ces réactions, ce sont des réactions de très mauvaise foi. Donc, je vais dire quelques mots parce qu'il y a effectivement des personnes sincères qui disent. Ah oui, mais quand même, la situation est terrible, il ne faudrait pas parler d'apartheid, la référence à l'Afrique du Sud, c'est pas exactement ça. Mais on n'est pas sur la référence à l'Afrique du Sud. On est sur la définition internationale par l'ONU et par la Cour pénale internationale d'un crime contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité, il est établi par les grandes ONG palestiniennes, israéliennes comme B'Tselem, internationales comme Human Rights Watch et l'Amnesty International. Donc il faut ouvrir les yeux. Il faut que toutes les personnes de bonne foi ouvrent les yeux et voient qu'effectivement, bah, la définition internationale de l'apartheid, elle s'applique au régime qu'Israël fait subir au peuple palestinien. Et à partir de là, mais effectivement, il faut agir pour que ces violations du droit s'arrêtent et que les choses soient réparées pour les Palestiniens. C'est tout simplement cela. Après, la plupart des réactions sont des réactions que l'on peut dire coordonnées, téléguidées par un réseau de soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Il y a des députés qui ont réagi, que ça ne nous a pas trop étonnés. En tout cas, c'est une mauvaise polémique. Il faut arriver à parler de l'apartheid d'une manière moins dépassionnée, se remettre sur la question des faits, de l'évidence des faits, de ce que ça veut dire en droit international. À partir de là, mais effectivement, de discuter de ce qu'on peut faire pour que ces violations du droit s'arrêtent. En droit international, l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. Il est établi par les plus grandes ONG. On ne peut pas prendre ça à la légère.
Bertrand Helbron, président de l'association France-Palestine Solidarité. Au Liban, un responsable du Fatah a été tué par balle dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain Helwe. L'homme avait le rang d'officier dans le mouvement du président Mahmoud Abbas. Il était en charge des liaisons avec les forces de sécurité libanaises. Il a été tué par balle par un inconnu alors qu'il priait dans la maison d'un ami dans le camp palestinien. Au Mali, bilan révisé à la hausse après une attaque contre l'armée dimanche. Ce sont au moins 17 soldats et 4 civils qui ont été tués. 9 autres militaires sont portés disparus. L'attaque attribuée à des djihadistes s'est déroulée dans la ville de Tessit à la frontière entre le Mali, le Burkina et le Niger. Au Maroc, la Cour de cassation a prononcé un avis favorable à l'extradition vers les États-Unis du Français Sébastien Raoult. Le jeune homme est soupçonné de cybercriminalité. Il est passible d'une peine de 116 ans de prison aux États-Unis. Un premier navire transportant des céréales exportées par l'Ukraine est arrivé en Turquie, sa destination finale. Le bateau était parti d'Ukraine vendredi avec 12 000 tonnes de maïs. De son côté, le Razoni, le premier navire à avoir quitté le port d'Odessa le 1er août, n'a pas débarqué au Liban comme prévu. Selon l'ambassade ukrainienne au Liban, l'acheteur final au Liban a refusé d'accepter la cargaison. L'expéditeur est donc à la recherche d'un autre destinataire. Le MRAP sera présent ce mardi à Paris-Plage entre 13h et 18h pour sensibiliser le public à la lutte contre le racisme. Nous écoutons Kaltoum Gachi, avocate et coprésidente du MRAP.
Ce mardi, en effet, le MRAP sera présent à Paris-Plage. Ça fait plusieurs années que le MRAP tient une sorte de stand à Paris-Plage, Canal de l'Ourcq, métro Stalingrad dans le 19e. C'est l'un des comités locaux du MRAP qui gère l'événement, le comité des 19e et 20e arrondissement de Paris. Et il y aura un certain nombre de petites activités proposées. Il y aura un petit atelier maquillage pour les enfants, des livres à consulter, des livres évidemment axés sur la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, avec des petits quiz aussi à destination des petits et des grands. Où la fois d'avant, il y avait un arbre où les enfants en particulier pouvaient laisser des messages de fraternité. Et puis, on procède aussi à la lecture de certains textes de sensibilisation à la lutte contre le racisme et à la promotion de l'égalité.
Alors, cette présence à Paris-Plage s'inscrit dans le travail mené par le MRAP, notamment dans les écoles. Il s'agit de sensibiliser le public à la thématique de la lutte contre le racisme. C'est aussi l'occasion de faire connaître la loi 40 ans après la loi Pleven.
C'est exactement ça. C'est une occasion assez ludique, assez festive de sensibiliser les jeunes, mais pas seulement, à la lutte contre le racisme. Et c'est vrai que bon, c'est un événement qui est assez partagé par les Parisiens, mais pas que. On profite aussi de cette occasion pour marquer notre présence et faire en sorte que la lutte contre le racisme, plus que jamais nécessaire sans doute, puisse aussi être de la partie.
Après plusieurs années d'absence, le MRAP reviendra à la fête de l'humanité à la rentrée. Votre association veut être plus présente sur le terrain pour mener tous ces combats ?
Oui, tout à fait. Alors, on est déjà présent sur le terrain, notamment à travers les procès que l'on mène contre les auteurs de propos ou d'actes racistes. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. À la fête de l'UMA, ça faisait quelque temps que le MRAP n'avait pas tenu un stand. Donc, on a tenu à de nouveau être présent à cet événement qui est un événement capital. On animera sans doute aussi un débat qui se situera évidemment dans le prolongement de notre objet soutien de la lutte contre le racisme, mais pas seulement. Le MRAP aussi est attaché au travail qui est effectué sur le devoir de mémoire, notamment s'agissant de la guerre d'Algérie. Et il est assez probable que nous participions à un débat sur le musée du colonialisme, de manière à ce que voilà la mémoire par rapport à cette guerre puisse être relayée, comprise, et qu'un vrai travail soit effectué sur cet épisode qui reste un épisode douloureux et qui peut aussi peut-être expliquer certaines choses en rapport avec le racisme.
Vous avez été reçu par Isabelle Rome, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Qu'est-ce que vous lui avez proposé pour faire reculer les discriminations et le racisme ?
Alors, il était question d'échanger avec Madame Rome sur les missions du MRAP, qu'elle connaissait bien évidemment, mais sur l'actualité de nos missions, à la fois dans les tribunaux, puisque le MRAP participe à certains procès, et même à l'initiative de certains procès contre des auteurs de propos racistes ou d'actes racistes. Nous avons aussi évoqué la présence du MRAP dans les écoles, toutes les écoles, mais également à l'université, puisque un vrai travail pédagogique est aussi nécessaire à faire pour sensibiliser dès le plus jeune âge à l'égalité, à la fraternité, pour que ça ne reste pas de vains mots et que ça puisse s'incarner. Nous avons aussi évidemment parlé de nos projets à venir, avec certaines choses qui se passeront à la rentrée. Puisqu'il y a un certain nombre d'événements qui se profilent à la rentrée sur notre lutte contre le racisme au quotidien.
Keltoum Gachi, avocate et coprésidente du MRAP. Le MRAP est présent à Paris-Plage ce mardi entre 13h et 18h sur les quais de Seine, métro Stalingrad ou Riquet. Un nouveau féminicide en France. Une femme a été tuée samedi par son concubin à Saint-Brévin-les-Pins, à une soixantaine de kilomètres de Nantes. Elle était âgée d'une cinquantaine d'années, selon Ouest France. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire par concubin. Le décès du célèbre créateur de mode, Issey Miyake, le couturier japonais, était âgé de 84 ans. Et puis hier, on a appris le décès de l'actrice et chanteuse Olivia Newton-John, star de la comédie musicale Grease, âgée de 73 ans. Elle luttait contre un cancer du sein depuis 30 ans. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.